Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Voilà, bah écoutez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur le 102.2. Nous sommes en direct depuis le studio 2 Carpentras-Serre. Et puis, comme vous avez pu le remarquer, le temps n'est pas forcément avec nous. Hein, donc, c'est bien de se mettre soit dans la voiture, soit bien au chaud pour écouter une émission de sport, 100% de sport, 1h30 avec mes amis animateurs. Tout d'abord, Valérie. Salut Valérie.
Salut Lionel, bonsoir à tout le monde.
Et Alexandre, salut Alex.
Salut Lionel, bonsoir à tous.
Ça fait plaisir de t'avoir parce qu'en pleine préparation au bac, je m'étais dit, ça va être dur.
Là, c'est l'une des dernières que je fais. Et sachant que c'est ma dernière année à RTVFM.
Putain, c'est enfin débarrassé de toi.
Écoute, je pars sur Avignon, donc je pars pas très loin. Mais
Au fait, post-bac, ça marche ?
Alors, le Parcoursup, oui, c'est un immense bordel, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Le site est souvent saturé, il y a beaucoup de bugs. Mais moi, j'ai eu mes vœux, donc j'ai eu le vœu que je voulais, donc je suis content.
Ouais.
Et du coup, l'année prochaine, je vais à Avignon.
Mais il faut le bac.
Il faut le bac.
Tu m'as parti pour, en tout cas.
Oui, après, là, ça s'annonce bien. J'ai ma première épreuve de bac jeudi.
C'est quoi ?
C'est le théâtre.
Ah,
c'est le théâtre.
T'es un beau comédien pour ça.
Oui, ça va bien se passer.
On n'est pas trop inquiet.
Non.
Bon, je vous présente mon petit Bruno, le meilleur technicien de la radio. Salut Bruno.
Salut Lionel, bonjour à tous.
Tu vas bien, Bruno ?
Ça va, impeccable.
Toujours au rendez-vous ?
Ah, fidèle.
Ah, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sport très connu et avec un excellent club, avec une équipe qui évolue en National 2 depuis cette année. C'est le Mazan Ventoux-Contant Handball avec Pascal Vassé, le vice-président. Salut Pascal.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Ça va permettre de faire le bilan de cette première année en National 2. Et puis, comme il y a une réorganisation complète des divisions, Mazan reste dans cette poule et va pouvoir continuer en National 2. Donc, on va parler. Puis, il y a quand même deux départs hein, dans le club. Départ non négligeable, la capitaine et l'entraîneur. Donc, ça va permettre justement de parler de tout ça. Plus éventuellement, la promotion du handball au sein du territoire avec le nouvel emploi d'agent de développement. Je rentrerai bien sûr dans les détails tout à l'heure. Et ensuite, nous aurons en duplex téléphonique Jean-François Cartoux. On l'a eu il y a quelques temps de ça pour parler justement d'un événement incontournable qui aura lieu le week-end prochain. Donc, ça ne sera pas durant le match de Mazan parce que on essaie de satisfaire tout le monde. Ça sera le dimanche avec Dingue Debout. Et puis, les conditions, franchement, s'y prêtent bien.
Il va y en avoir,
c'est à Perle des Fontaines. Et Jean-François, en fait, il est président de l'association Terrasport Vaucluse. Donc, on l'aura, je pense, juste après la pause de 19h. Mais avant cela, chers amis, on va parler des petits résultats locaux.
Oui, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai que du foot. Donc, je sais qu'il y a eu aussi du rugby. Mais côté Bédarid,
côté 15.
Côté 15 donc, avec Bédarid qui accède.
Je ne me renseigne pas trop, à vrai dire. Ah ouais. Je suis assez reculé, moi, du rugby à 15.
Oui, mais bon, c'est quand même un événement que
Bédarid
accède à la...
Après, moi, je suis... Honnêtement, pour moi, dans le Vaucluse, le 13 est largement meilleur. Donc,
ça... oui, mais bon, c'est quand même un club encore vauclusien qui accède en élite 1. Donc, Bédarid accède en élite 1. Donc, bravo à eux.
Voilà. Alexandre, sache une chose. Tu veux être journaliste.
Oui.
Un journaliste est objectif.
Oui,
il est neutre.
Attendez,
tu ne dois pas prendre parti.
Je suis objectif.
Là, après, tu prends parti sur le 13.
Bien sûr. Mais pour moi, le 15, on en parle déjà assez au niveau national.
Mais pas suffisamment dans le Vaucluse.
Mais parce que dans le Vaucluse, Monteux, ils sont plus aussi bons qu'il y a quelques années.
Oui,
ils sont en régression depuis quelques années, je suis désolé de le dire. Oui. Le Ponté, c'est pareil. Et il n'y a que Bédarid qui s'en sort un peu, mais après, ça reste Bédarid, quoi. Genre, c'est pas des clubs qui vont forcément aller très très loin non plus.
Même s'ils
font des bonnes choses, mais après, il y a toujours mieux.
Oui, il y a toujours mieux.
Bédarid, ils vont en élite 1, mais est-ce qu'ils vont rester en élite 1 ? Parce que c'est bien de rester c'est bien l'élite 1, ça permet après l'accession top 14. Pro D2.
Non.
Donc c'est quand même la troisième division, c'est bien, je suis content pour eux. Mais après, moi, le 15 dans le Vaucluse, je trouve qu'il est pas du niveau du 15. Autre part, par exemple.
Écoute, ça leur fera une expérience, moi je dis.
Voilà.
C'est exactement, bah, c'est comme la Nationale 2 au niveau du hand. Hein. Bon, bah, cette année, elles se maintiennent. Elles n'ont pas fait des mauvais, mauvais matchs, même si elles ont perdu malheureusement à chaque fois un petit peu à la fin, on va dire. Mais au moins, ça a été déjà une première année d'expérience.
Ah, c'est très clair, oui. C'est voilà. une année de toute façon bénéfique. On ne s'attendait pas à finir en haut de tableau, hein, c'est évident. La marche est importante entre la Nationale 3 et la Nationale ben 2. Oui. Donc c'est une belle saison d'apprentissage, ouais. Avec des hauts et des bas, c'est vrai, mais il faut se servir de ce qui a bien fonctionné pour pouvoir préparer l'avenir.
Tout à fait. Allez, moi je vais commencer quand même avec des puis, résultats de foot.
Il n'y a pas que du foot, parce que justement il y avait le match
oui,
de
hand, oui, mais on en parlera tout à l'heure. Après.
Oui, oui, non, mais voilà, voilà. Y a, on en a au moins deux.
Voilà. Allez, je commence avec le foot en D1, pas D1, pas Division 1 oui. De Rhône-Durance.
C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à s'y retrouver avec ces D1, t'as D1 départemental, D1 régional, D1 national.
Oh là là. Ah, D1 national, ouais, c'est la Ligue 1.
Oui, je sais.
Oui, mais c'est pour ça que je précisais.
Et la Allez, Ligue 1, elle est finie en plus.
Hein ?
Elle est finie en plus, la Ligue 1.
Ouais, ouais,
en plus,
c'était ouais. Fini, oui.
Bah ouais, c'est l'OM qui a gagné.
Non, ah je rigole. Bon, c'est pareil.
Bon, je peux commencer ?
Ah oui, pardon.
Oui, vas-y, vas-y.
Alors, Courthézon, Montfavet 3-2, Orange, Lille 7-1. Il y avait Pernes-Jonquière 5-1 pour Pernes, Sorgues-Cavaillon 6-2. Au classement général, Carpentras est premier.
Alors, on a demandé les scores de foot, pas les scores de Roland-Garros. Ouais. Parce que là, il ne sort que des 6-1, 6-2 depuis
ah
tout
bah,
à l'heure.
Écoute,
c'est vrai.
C'est vrai qu'il y avait Roland-Garros. Il y a Roland-Garros qui a commencé.
Oui.
En D2, Poule B, donc Autre-Provence, Saint-Didier 7-3. Dentelle, Villeneuve 4-2. L'Étoile d'Aubune, Monteux 0-3. Au classement général, Monteux est 4e, l'Étoile d'Aubune 5e et Saint-Didier 11e, pas dernier. 11e sur 13. Donc,
ouais,
c'est pas
loin
mal.
Quoi.
Oui, Pascal. Voilà.
J'ai, quand tu parles d'Étoile d'Aubune, j'ai une petite pensée pour quelqu'un qui m'était cher, Dédé Vignon, qui nous a quittés cette semaine.
Ah. Pas courant, oui.
Et donc, il était un des dirigeants, un des fondateurs du football sur Beaume et Aubignan, quoi, hein, l'Étoile d'Aubune. Et c'était quelqu'un qui était aussi investi à l'Office intercommunal des sports. Et c'est quelqu'un que je n'ai pas côtoyé beaucoup, mais que j'ai énormément apprécié. Voilà. Et c'est quelqu'un, un vrai bénévole et quelqu'un d'humainement vraiment très très bien. Un grand monsieur.
Bah, écoute, on lui rend hommage et puis on lui dédie cette
Absolument.
Émission alors.
Voilà. Et nos condoléances à toute la famille. Et c'est bien que tu l'aies précisé, comme ça, ça permet justement d'avoir une pensée pour lui et sa famille.
Et ses proches, oui.
Voilà. Je continue en Détroit pour le A. Étoile d'Aubune, Monteux, 2-2. Violès, Saint-Didier, 5-5. Loriol, le RC Provence, 3-3. Cette fois-ci, c'est des matchs nuls. Au classement général, Monteux est 5e. L'Étoile d'Aubune, 9e. Loriol, 12e. Et Saint-Didier, dernier, 14e.
Et les premiers ?
Les premiers, c'est Valréas. Donc, là, il n'y a pas de possibilité quand je dis troisième, quatrième, ils sont pas de possibilité d'arriver aux trois premières places. Hein. C'est vraiment des D'accord. écarts assez importants. Hein.
Comme les buts.
Voilà, comme les buts. Mais là, c'était des matchs.
Tu as vu un peu les buts qu'il y a entre les six, tu as un match comme ça, je peux te dire. T'envoies des buts.
Ah oui.
Ah, tu t'ennuies pas. Hein.
C'est mieux que la Ligue 1.
C'est pas facile de donner des résultats avec deux pipelettes.
Ah, pardon. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais on commente les résultats. En plus, c'est intéressant ce qu'elle dit.
Quand on commente pas, tu dis qu'on s'en fout. Et après, là, quand on commente, là, ça y est.
Ouais, et puis tout à l'heure, Alexandre a voulu faire un peu d'humour et il n'y a que moi qui ai rigolé.
Voilà, c'est ça, avec lui qui suit.
Non, franchement, c'est pas cool, quoi.
Je continue.
Non, mais je suis avec toi, Alexandre.
Je continue en Détroit pour le B. Donc, Malocène, Carpentras 4-5. Piolenc, Caron 3-1. Au classement général, Carpentras est 3e avec 81 points, mais ex-aequo avec le 2e. Donc, il y a la possibilité de shipper la dernière journée la 2e place. Bon, par contre, la première place, c'est cuit. Hein. Et Caron est 5e. En
donc,
D4.
Donc, il reste une journée ?
Oui. Mais normalement, oui, il reste une journée, si je ne me trompe pas.
Ah, je ne sais pas, mais on ne regarde pas comme ça.
En D4, poule A, on confirmera tout à l'heure. En D4, poule A, Serre visant 4-2. Serre est 8e au classement général. Et le match avec l'Étoile d'Aubune a été arrêté. Alors, est-ce qu'il a été arrêté par rapport au temps, par rapport à un incident ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a été arrêté en plein match. Et l'Étoile d'Aubune est 11e. Et enfin, en D5, poule A, Piolenc donc recevait Caron et Caron s'est incliné 2-4. Caron est cependant premier au classement général avec 43 points. Le deuxième est Saint-Romain à 40 points. Donc je pense qu'ils sont assurés là aussi de finir en première. Voilà. Sinon, je voulais juste dire un petit mot concernant l'équipe de foot de Carpentras qui monte en Régional 2.
Ah, bien.
Ça, c'est un événement, oui.
Félicitations.
Et Cyril Bussy sera le nouveau coach de Carpentras, comme là, comme au rugby.
Ah,
l'ancien coach s'en va aussi. Voilà. Il reste dans le club, mais il ne fera plus
c'est
le.
Voilà, l'entraîneur. Hein. Voilà. C'est une saison de changement.
C'est une saison de changement. Donc, je te laisse la parole maintenant et je vais essayer de te couper parfait. Aussi souvent que tu le
Alors, moi, je serais tenté de vous dire que, comme on était sur les résultats locaux, on a Mazan, hein, qui a joué contre justement Frontignan. Et ça confirme.
Ah, c'était la semaine, c'était pas ce week-end. Hein,
ouais, c'était
le week-end
la semaine d'avant.
Mais bon,
ouais.
Comme. Mais en tout cas, on en parlait avant de l'émission. Prendre l'émission, justement, on parlait du bilan de la Nationale 2. Bien sûr, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Où je te disais qu'effectivement, ils commençaient leur match à fond de cale et qu'à la fin, ça commençait à baisser. Et dans ce match-là, ça s'est confirmé.
Tout à fait.
C'est... Donc le résultat final, c'est malheureusement donc Mazan qui perd.
Oui. Mazan Sorgue s'incline, je crois, de
25 à 30.
25-30, oui, de 5 buts, mais mené à la mi-temps 18-15, oui, plus 3, au terme vraiment d'une excellente première mi-temps. Donc si on est capable à l'avenir de réitérer sur des périodes plus longues ce niveau de jeu-là, y a pas de souci à se faire, on jouera le haut de tableau l'année prochaine.
Ouais. Non, mais c'était bien d'en parler parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de.
C'est vrai, on n'a pas eu d'émission. On a pas eu
oui, c'était lundi de Pentecôte.
Juste, je voulais rajouter, j'ai oublié le motoball.
Ah, bah oui.
Il y avait des matchs.
Eh bien oui.
Un championnat élite 1.
On aurait dû dire, mais oui, tu ne savais même pas, Alexandre.
Neuville-Vaugeocourt.
Sois solidaire de ta collègue.
Je voilà. suis solidaire.
Neuville-Vaugeocourt, 8-3. Il y avait Robion-Houlgat, 5-6. Monteux, lui, se déplaçait à 3 et s'est incliné. Non, s'est imposé, pardon. Non, s'est incliné 7-1.
Ça va y arriver.
Et c'est Carpentras, lui, qui s'est incliné contre Camaré 4-1.
Bah, voilà. C'était pour donner un résultat négatif pour Carpentras.
Voilà. Bah oui, mais bon, ça arrive. Ouais, c'est, voilà. c'est. Bah oui, ils
mais
ont
bon,
été champions de France.
La neutralité du journalisme.
Ils ont été champions de France la semaine dernière, mais voilà. Oh, voilà. Et là, le week-end prochain, c'est les quarts de finale du championnat de France, match retour. Voilà, voilà.
Bien. Bah, ouais. En résultats nationaux, maintenant. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment, vu que. Oui, non, mais là, il n'y en a quasiment pas. Vraiment pas cette année. C'est...
J'ai rien dit, Alexandre.
Et je ne sais pas si on regarde d'un air bizarre.
Bah, non. Je t'écoute.
Et oui, parce que vu que la Ligue 1 s'est terminée donc depuis une semaine et demie, deux semaines, et que ça, on est tous un peu tristes que ça s'est terminé, que ça soit terminé, il y a quand même eu pas mal de quelques résultats. Déjà, en balle, forcément, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions. La finale entre Montpellier et Nantes, la première finale 100% française, et c'est Montpellier qui s'est imposé. Donc après, c'est la deuxième équipe, c'est la deuxième fois qu'ils sont titrés en Europe. Ils ont battu donc Nantes 32-27. Donc comme je l'ai dit, c'est la deuxième fois qu'ils sont champions d'Europe. C'est toujours l'unique, je crois que c'est l'unique club champion d'Europe français, je crois.
Oui, oui, oui.
Et ben, ils ont réédité leur exploit 15 ans après.
Bien.
Donc félicitations à eux. Donc ça, c'était un peu la nouvelle. Handball de ce week-end ouais. Et au niveau
et surtout il y avait trois équipes françaises dans le dernier carré au final fort à Cologne donc c'est jamais arrivé c'est vraiment une première
c'est incroyable ça veut dire qu'on a un très bon niveau
ouais, tout à fait
il y a eu la déception de Paris quoi qui aussi
Paris s'est incliné contre Nantes en demi-finale et en toute logique oui. Nantes a bien géré a fait tourner son effectif contrairement à Paris Nantes a exploité toutes les failles des Parisiens et
quoi,
a su s'imposer
comme quoi le PSG dans tous les sports ils n'arrivent pas à passer les demi ou les quarts hein.
C'est psychologique
c'est vraiment impressionnant hein. Faut que les Qataris se remettent en question. On va passer au top 14 maintenant. Avec les demi-finales de top 14, Montpellier recevait le Loup. Et bon, bah voilà, le Loup ne pouvait pas espérer forcément faire une victoire. Et ils ont pris 40-14 contre le Montpellier qui est un monstre hein, cette année vraiment incroyable.
Ouais, je ne sais pas si ridicule que ça.
Non, mais Montpellier cette année, ils sont au-dessus de tout le monde. Cette année, Montpellier, c'est vraiment la référence. Et la deuxième demi-finale opposait le Racing au Castres Olympique. Et ça, c'est pour moi la surprise de ce week-end. C'est-à-dire que Castres est allé s'imposer sur la pelouse du Racing 19-14. Donc, c'est une véritable surprise.
Belle opération.
Et c'est une énorme déception pour le Racing qui fait encore une saison où ils commencent bien et ils finissent à perdre soit les finales, soit les demi-finales. Donc, une très mauvaise opération forcément pour le Racing. Et donc, la finale, elle opposera Montpellier au Castres Olympique.
Quand ?
En début juin.
Début juin.
Oui.
Très bien. On fait une petite pause. Et puis, ce que je te propose, c'est aussi de donner la liste des joueurs pour la Coupe du Monde.
Ah oui, bah, il y a eu beaucoup de polémiques.
Oui.
Il y a eu une grosse polémique. D'ailleurs, j'ai un avis critique dessus. Et...
D'accord. Ben, on fait la pause. Ouais. Allez, on se prépare. I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious but I'm honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? You got a body to hold you tight since I left. Since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Après ce petit intermède musical, nous revenons à notre sport donc international maintenant parce que bah, comme vous le savez tous et toutes, dans deux semaines, je crois, trois semaines, non, un peu plus parce que c'est vrai qu'on est encore en mai.
Dans trois semaines.
Dans trois début semaines. De la Coupe du Monde
18 jours.
Qui aura lieu en Russie.
Effectivement.
Monsieur Deschamps, Didier Deschamps nous a sorti la liste des retenues, c'était en fin de semaine dernière.
Oui, c'est ça, effectivement.
Alors, dis-nous tout. En plus, alors, il y a eu une belle petite polémique. Hein.
Alors, il y a eu pas mal de polémiques. On va y revenir juste après. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a là, c'est un groupe, donc ce qu'on appelle un groupe élargi, c'est-à-dire le groupe des 23, des 23 joueurs qui s'envoleront normalement pour la Coupe du Monde, et une dizaine de suppléants. Les suppléants vont servir donc à s'entraîner avec l'équipe là pendant les trois matchs. Pendant les trois matchs amicaux. Et sachant que si un blessé de dernière minute, l'un de ces joueurs va remplacer les joueurs présents dans la liste et partiront à la Coupe du Monde.
Ouais.
Voilà. Donc c'est un peu une mini chance. Ils ont encore une mini chance de.
Mais très très minime.
Mais très minime. Alors en gardien, bah il y a pas de, pour l'instant, il y a rien de très logique. Alors de très pas normal, pardon. Donc on a eu Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda qui sont les grands habitués en gardien de l'équipe de France. En défenseur, on a eu Lucas Hernandez, défenseur de l'Atlético Madrid. C'est un jeune joueur qui est plutôt pas mauvais et que peu de gens du grand public connaissent au final. Mais c'est un jeune très bon. On a Kimpembe, joueur du Paris Saint-Germain, Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, Adil Rami, Samuel Umtiti et Raphaël Varane. Raphaël Varane qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid ce week-end notamment. Là, il n'y a pas trop de surprises non plus. Si, peut-être Benjamin Mendy, c'était un joueur qui a été blessé pendant toute la saison et qui n'a joué que 60 minutes cette saison. Donc, il a été pris à juste titre, même s'il y a eu une petite
polémique. Il a eu de chance.
Il y a eu une petite polémique par rapport à lui. On va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est là où il a eu la petite polémique, mais on reviendra après. Donc, Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Paul Pogba et Corentin Tolisso. Donc la grosse surprise, c'est Steven Nzonzi parce que voilà, c'est un joueur qui joue à Séville, que pas grand monde connaît non plus, et voilà, qui sort un peu de nulle part pour le grand public. C'est vrai qu'il y a beaucoup, les amateurs du foot le connaissent, mais
et toi, t'en penses quoi?
Moi, je suis très content. Je l'aime beaucoup ce joueur, même si je pense que
il est un peu limite.
Je pense qu'il l'a pris parce que Payet s'est blessé. Pour moi, donc. On va voir. C'est un joueur qui met beaucoup de solidité, donc c'est une bonne idée et qui a un gros physique, donc ça peut servir. Et en attaque, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. On a Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Nabil Fekir, Florian Thauvin et Ousmane Dembélé. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et donc la polémique qu'il y avait eu, parce que dans les réservistes, je crois qu'il y avait Lacazette et d'autres joueurs un peu moyens, on va dire, qui sont bons mais qui n'ont pas le niveau de l'équipe de France.
Mais ils ont tous déjà joué en équipe de France.
Ils ont tous déjà joué en équipe de France. Ils ont tous au moins une sélection en équipe de France, il n'y a pas de nouveau. Je crois que le plus jeune, c'est celui qui n'a le moins joué, c'était Benjamin Pavard. Je crois qu'il a eu une ou deux sélections. Il a commencé comme ça, un peu sur le tas. Et donc là, il y a eu une polémique au niveau des réservistes. Il s'agissait dans les réservistes, il y avait un joueur qui s'appelait Adrien Rabiot, qui est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et qui est un jeune français, vraiment, même si je suis pour l'OM, je dois le reconnaître, c'est un excellent joueur, vraiment.
Prometteur.
Très prometteur.
Il a quel âge?
Et il a 22 ans, je crois, c'est ça, 21 ou 22 ans, donc très, très jeune et très bon, vraiment. Et il a envoyé une lettre à la Fédération Française de Football en expliquant qu'il se retirait de la liste des réservistes parce qu'il ne méritait pas d'être dans la place des réservistes. Pour lui, il méritait d'être dans la liste des 23. Et il a considéré donc que ce n'était pas assez bien pour lui. Et donc, il a décidé de se retirer de la liste, comme ça, sans vraiment de vraies raisons, au final.
Donc, bon joueur avec une grosse tête.
Donc, forcément, ça...
Bah, il est
ça,
au PSG,
ça,
hein.
Ça ouais, déferlé,
avec une grosse tête de prétentieux.
Il y a
eu
un déferlement sur les réseaux sociaux qui est logique, hein, parce honnêtement, mais moi, je trouve que c'est pas du tout respectueux vis-à-vis de l'équipe de France, c'est pas du tout respectueux vis-à-vis de sa carrière.
Et des autres joueurs.
Et là, tant que Deschamps est en équipe de France, lui, l'équipe de France, c'est terminé pour lui.
Elle est grillée. Voilà,
là, l'équipe de France, pour lui, elle est grillée.
Non, et puis, il en faut des réservistes.
Il se gâche,
mais bien sûr. Il en faut, mais surtout. Donc, à partir de là, il faut faire un choix.
Surtout que c'est pas la seule Coupe du Monde qu'il fera dans sa vie. Il a 23 ans. Enfin, il a 22 ans. Il est jeune, quoi.
À mon avis, ce sera la seule.
À mon avis, du coup, il n'en jouera pas, quoi. Les résultats, il n'en jouera pas. Et donc, il y a eu cette polémique-là. Et pour s'expliquer, et ensuite, il s'est expliqué via une lettre qu'il a mise sur les réseaux sociaux où il disait que le choix de Didier Deschamps ne réagissait à aucune logique sportive. Alors, je trouve que là, c'est encore plus énorme que se retirer. C'est-à-dire que là, il a carrément ouvertement critiqué Didier Deschamps, qui a quand même gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Alors, on l'aime ou on l'aime pas en tant que sélectionneur, ça reste un quelqu'un qui a une logique sportive. Même s'il y a eu la polémique Benzema, tout ça.
Et moi, je trouve que c'est un bon sélectionneur parce qu'il assume ses choix. Il n'est pas forcément influencé d'autres sélectionneurs.
Il assume ses choix à moitié. Il assume ses choix à moitié parce que Benzema, il l'a jamais vraiment assumé.
Ouais, mais bon. Pas être honnête. Pascal, je sais pas ce que t'en penses. Comment tu trouves, toi, des gens?
Moi, j'en pense rien du tout. Des gens comme celui dont on parle, ils me sont complètement indifférents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe, le jeu de l'équipe de France. Le reste, les égos, bah, qu'ils les gardent pour eux. Mais ce qui compte, c'est avant tout l'équipe, le jeu. Oui. Et dans les médias, on devrait parler plutôt du jeu de l'équipe de France, du groupe, et non pas des individus. Donc après, c'est du temps de perdu, là.
Après, quand
il faut
joueurs,
le laisser
quand, après,
où il est.
Ça,
et voilà,
même, on l'oublie. Moi, je trouve qu'un joueur dit ça, c'est quand même assez...
Oui, mais justement, on lui donne trop d'importance.
Bien sûr.
Arrêtons de donner de l'importance à des gens qui ne pensent qu'à eux avant de penser à l'équipe. Et ce qui compte, c'est l'équipe.
Bien sûr.
Par contre, l'avantage, c'est que Didier Deschamps a eu une très très bonne réponse.
Il a eu une très très bonne réponse. C'est-à-dire qu'il a clairement dit que s'il n'est pas pris, c'est parce que même s'il a fait une très bonne saison à Paris, il a joué 3 matchs avec l'équipe de France et les 3 matchs, il a été complètement catastrophique. Genre, même moi, pour les avoir vus, je peux le dire, il a été mauvais. À chaque fois qu'il était là, il était mauvais. Donc c'est un joueur qui doit vraiment se remettre en considération parce que là c'est un ego qui vraiment dépasse tout entendement, surtout pour un gamin de son âge et surtout que c'est pas non plus Lionel Messi.
Il va tomber dans l'oubli.
Ah bah lui soit il se remet à niveau et vraiment il se range et il essaye de faire des bons matchs et d'être sérieux et de plus faire de conneries, soit l'équipe de France c'est fini pour lui et le problème c'est que ça va bien sûr tâcher sa réputation. C'est un peu un nouveau. Pour moi, c'est un nouveau Samir Nasri, un peu. C'est un peu
oui,
le
mais
même.
Mais c'est pas grave, Alexandre. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'équipe. Donc,
oui, bien sûr.
Il faut l'oublier. C'est
et justement, en parlant de l'équipe, après, ce soir, il y a un match.
Ce soir, il y a un match. Ce soir, il y a un match France-Irlande où Didier Deschamps devrait faire un petit peu tourner. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le match. Ça va être un bon match. Hein. On va s'amuser.
Je pense que c'est un match de cadrage.
Mais.
De calage.
Ne regardons pas ce match d'un œil très critique parce que c'est la fin de saison. Les joueurs sont fatigués. La Coupe du Monde, elle arrive. Ils se préparent plus pour la Coupe du Monde que pour ces matchs-là. Là, c'est des matchs, ici, c'est juste pour aller taper 2-3 fois dans la balle hein, ce soir. Hein. C'est juste pour faire semblant de... Pour prendre un petit cachet et pour jouer son match, hein, c'est tout. Mais sinon, c'est pas le match ultra important, le match vraiment important.
Parce que là, le départ en... Attends, excuse-moi, je te coupe, mais le départ en Russie, il est prévu quand ?
Le départ en Russie, il est prévu après les 3 matchs, à la fin des 3 matchs.
Donc là, il y a 3 matchs qui vont avoir lieu.
2-3 matchs amicaux et après, il décolle en Russie. Parce que le premier match de l'équipe de France, ce sera le 16 juin contre l'Australie. Donc, un match qui devrait être une large, large formalité. Après, ils ont un match contre le Pérou. Alors, le Pérou, il faut s'en méfier, parce que c'est une équipe qui a surpris énormément d'équipes en Amérique du Sud, notamment l'Argentine et le Brésil, qui ne sont pas des nations moindres. Et ensuite, sur le match, il y aura un troisième match contre le Danemark. Donc, ça, c'est les matchs de phase de groupe. Donc ça devrait être voilà, la phase de groupe devrait être a priori facile pour la France, mais il faut s'en méfier et mettre les égos de côté effectivement pour aller chercher.
Après c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas forcément une poule difficile.
On n'a pas une poule difficile, on a l'une des équipes les plus prometteuses et on est l'un des plus gros favoris.
Tu vas suivre Pascal le...
Oui évidemment un petit peu.
Mais c'est pas
moins l'équipe. Bah, je sais un petit peu tout ce qu'il y a à côté qui me fatigue. Donc, moi, j'aime le foot, hein, mais à condition qu'il y ait du beau jeu. Et j'aime le foot pour le beau jeu. Voilà, tout simplement. Après, qui joue, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est
d'avoir
ce
un qui bon est match.
Voilà, de voir un bon match, ce qui est produit sur le terrain et avec des valeurs, quoi. Quand je vois les gens qui mettent la main devant leur bouche pour pas qu'on décode ce qu'ils se disent. Bah ça, j'avoue que j'ai aussi beaucoup de mal.
C'est vrai que c'est pas forcément ça en hand, on le voit pas forcément, alors qu'en équipe de France de handball, l'équipe de, je pense qu'elle a, c'est une des meilleures équipes parce que bon, c'est vrai que elle a énormément gagné.
Non
de...
mais je veux pas qu'on cite forcément le handball en exemple, mais
c'est un bon exemple.
En donneur de leçons, surtout pas.
Oui, c'est un bon
exemple.
Mais
voilà, il y a des choses dans le football qui doivent nuire à beaucoup de gens qui sont impliqués au quotidien dans le football, je pense.
Allez, on fait une petite pause et ensuite, on aura justement en duplex Deng Debout pour parler de cet événement qui aura lieu dimanche le 3 juin.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur le 102.2. Et comme nous avons des invités qui ne peuvent pas se déplacer, mais on les prend au téléphone et vraiment, on est ravis d'avoir au téléphone Jean-François Cartoux, président de l'association Terrasport Vaucluse. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, tous les auditeurs, les auditrices. Ravi d'être de nouveau en ligne avec vous.
Bah écoute, c'est réciproque. On va pouvoir parler de cet événement. Premier événement dans le Vaucluse, premier événement à Pernay-Fontaine. Dimanche qui arrive, donc le 3 juin, dingue debout, c'est quoi ?
La dingue debout, alors, donc c'est une course à obstacles nature 100% fun et sportive, donc qui s'adresse à un public très large, puisque dès 14 ans, on peut faire le parcours de 6 km. Et il n'y a forcément pas de limite d'âge, donc d'ailleurs on a déjà un inscrit qui a plus de 70 ans à ce jour. Donc voilà, c'est un vaste public attendu donc dimanche. Il y a donc deux parcours 6 km avec plus de 20 obstacles et un parcours on va dire un peu plus sportif de 11 km avec plus de 30 obstacles. Donc voilà, de la boue, mais pas que. Des obstacles physiques, mais pas que. Des obstacles ludiques, mais pas que. Et voilà, c'est beaucoup d'ingrédients dans une seule course.
En tout cas, la boue, si t'en voulais, tu en as. Parce que depuis le temps qu'il pleut, à mon avis, le terrain, il doit être propice justement à cette belle fête.
Voilà, exactement. On voulait de la boue la semaine précédente. Donc là, on est en train de faire les réserves. Et après, on a commandé le soleil pour la fin de semaine. Donc voilà, tous les feux sont ouverts pour cette première édition de la dingue de boue. Donc sur le site du motocross à Pernay-les-Fontaines.
Effectivement, en fin de semaine, ils ont annoncé beau temps, donc tant mieux, comme ça, ça va permettre d'avoir un bel événement. Lorsqu'on s'était vu, il y a à peu près un mois et demi, le nombre d'inscrits était déjà assez élevé. Je crois qu'on était aux alentours de 250 inscrits. Il y a encore de la place ?
Donc voilà, ben à ce jour, donc on approche les 600 inscrits, donc avec toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, puisque les filles représentent 60% des inscriptions.
Ah, c'est les plus courageuses. Et on leur dit, que la boue, c'était bon pour la peau.
Et puis depuis, c'est vrai qu'on s'est vu, on a quelques sportifs de haut niveau qui seront au départ de cette première édition, donc notamment Cédric Soubera, qui est champion d'Europe de supercross en moto. Donc là, qui, pour le coup, n'aura pas de moto, mais se déplacera à pied sur la piste de motocross de Pernes. On aura aussi un boxeur champion du monde, Eddy Saïd Slimani, qui nous fait l'honneur d'être présent aussi sur la course dimanche. Enfin voilà quoi, beaucoup de monde, des gens de tous bords, des gens très sympathiques qui viennent beaucoup beaucoup en équipe. Donc c'est le rendez-vous de la convivialité, du sport. Et donc voilà quoi.
Attends, je suis avec Pascal Vassé, donc vice-président du Mazan Content Handball. Il avait une question à te poser.
Oui, bonsoir. Les concurrents là, viennent essentiellement du Vaucluse ou ça vient des quatre coins de la France ?
Donc là, on a des concurrents en majorité vauclusiens, mais on a 16 ou 17 départements de représentés là, au niveau des inscriptions. Des Parisiens, des Lyonnais, des Varois, des Alpes-Maritimes, Montpellier.
D'accord. Et c'est sous
l'égide du Grand Quart Sud-Est et... Le Grand Quart Sud-Est et quelques exceptions du Bordelais notamment, de Bourgogne, enfin voilà.
D'accord, et c'est sous l'égide d'une fédération, votre organisation ?
Allô ?
Allô ?
Oui,
je disais c'est sous l'égide d'une fédération, l'organisation que vous mettez en place, hein, cette journée, là, cette manifestation ?
Donc voilà, nous on est sous l'égide de la fédération de la FSGT, donc c'est la Fédération sportive et gymnique du travail. Bon, sachant que c'est le tout début de ce style de course en France, puisque la course à obstacles a une petite dizaine d'années de pratique donc en France. Et actuellement, c'est la Fédération française d'athlétisme qui est en train de prendre en main les choses pour essayer de cadrer cette nouvelle discipline.
D'accord.
Donc nous, on est sous la FSGT, mais on s'est servi aussi du cahier des charges qui est en train de mettre en place la FFA.
Ok. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Pour une première, je suppose que c'est la première, là, 600 et quelques participants, c'est énorme, je trouve. Hein. Vraiment bravo. Hein.
Et sinon, au niveau de Jean-François, tu nous entends bien, François, Jean-François ?
Alors, toi, je t'entends très bien. J'entendais pas ton invité, ouais.
Ah, et il te félicitait justement pour une première à plus de 600 inscrits, parce que franchement, chapeau. Et justement, par rapport à ce nombre, moi, je rebondis là-dessus. Vous avez limité le nombre de places ou pas ?
Donc, alors, nous, en fait, on a 7 départs. Donc, pour qu'il y ait une fluidité, on va dire, dans la progression lors de la course sur les obstacles, on a limité, donc on a fait 7 départs de 150 personnes à chaque départ. Voilà, pour pas que les gens aient à attendre sur des obstacles, parce que forcément, ça, on veut pas que les gens bouchonnent sur des obstacles. Et donc on veut de la fluidité, on veut de l'animation toute la journée sur le site donc du motocross à Berne. Donc notre premier départ est à 10h, suivi de 10h30, 11h, puis après on passe à l'après-midi à 13h, 13h30, 14h et 14h30. Oui, alors... Sachant que l'après-midi, c'est pour le format plus court de 6 km. Et le matin, forcément, c'est le format un peu plus long et un peu plus sportif sur le 11 km.
Et petite question pratique, vous êtes combien à l'organisation de cet événement ? Parce que ça me paraît, paraît énorme. Hein.
On est 110 ou 115 bénévoles, ouais.
D'accord.
On sera 110, 115 bénévoles le jour de l'événement, oui.
Il est toujours possible de s'inscrire, alors ?
Ah oui, oui, il est toujours possible de s'inscrire. D'ailleurs, je vous invite à vous rapprocher, à tous les auditeurs, de notre site, donc dinguedebout.com.
Pour justement
l'inscription. Il y a un petit onglet avec inscription, et voilà, c'est toujours faisable, même le jour de l'épreuve, si on n'a pas atteint le quota maxi par départ.
Très bien, mais en tout cas, je suis estomaqué, plus de 600 participants, franchement, bravo. Hein, lorsqu'on s'était vu, on était à 250, on s'était dit 300-400, hein, même toi, on en avait parlé, Jean-François. Et puis, donc, plus de 600, bah, c'est vraiment déjà une réussite avant même que ça commence. Donc, le premier départ, tu disais, c'était 10h. Par contre, le rendez-vous pour l'échauffement, c'est prévu vers quelle heure ?
Donc alors, début des inscriptions dès 8h le matin, et puis bon, on conseille aux gens de venir une bonne heure avant leur départ, pour qu'ils puissent prendre leur dossard, pour qu'ils puissent s'échauffer en musique avec nos deux chorégraphes qui vont mettre en place donc des échauffements rythmés. Donc voilà quoi.
Donc ça va être la fête.
Ah bon, le but, il est là. Voilà, c'est du sport, mais pas que. C'est de la fête. C'est tout un ensemble. On essaye. On amène tous ces ingrédients. Et après, ça sera aux participants d'en faire ce qu'ils voudront. Mais ça va pas être un dimanche triste, quoi. Voilà.
Ah mais ça.
Il va y avoir de l'ambiance. Il va y avoir de la couleur. Il va y avoir plein de surprises. Il y a des distributions de cadeaux. On a également mis en place un petit parcours d'initiation à la course à obstacles pour les enfants de moins de 14 ans et de plus de 6 ans. Donc, il est totalement gratuit ce petit parcours. Donc, voilà, ne pas hésiter à venir en famille. On aura une buvette sur place, de la petite restauration rapide. Il y a des parkings tout proches du site. Enfin, voilà, tout est mis en place pour passer une belle journée.
Mais en tout cas, on en est convaincu. Ben écoute, merci beaucoup Jean-François Cartoux, président de l'association TerraSport, d'avoir représenté cet événement. On vous souhaite bonne chance pour dimanche. Et puis, j'invite tous les auditeurs, bien sûr, à vous rendre sur le site internet. Moi, je publierai, bien sûr, sur le podcast. Et puis sinon, rendez-vous directement au motocross de Pernes-les-Fontaines dimanche prochain, le 3 juin.
Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Et donc, à dimanche.
Merci. Au revoir. Au revoir, Jean-François.
Merci, au revoir.
Et donc, Jean-François, il parlait justement de sportifs de haut niveau. J'en profite pour donner un résultat. Hein. J'ai omis ça et c'est bien dommage. C'est Eddy Naslimani, hein, donc champion du monde quand même de K1, Il était dans l'octogone samedi à Marseille et il a gagné au point contre un Espagnol. J'ai perdu son nom. Et c'était un très très beau combat. Donc je souhaitais féliciter Eddie pour ce très très beau combat qui a eu lieu. Donc c'est un combat à l'octogone, c'était un combat principalement de pancrace. Mais ils ont intégré également d'autres sports comme le K1. Et vraiment, c'était une très très belle manifestation au Palais des Sports de Marseille. Voilà, allez, on fait une petite pause et après on parle handball. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times they keep coming all night, laughing and fucking. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope that it was you.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans les studios. Donc, on vous a présenté il y a quelques instants la manifestation de ce week-end, hein, Dingue Debout. C'est, je le rappelle, hein, le 3 juin à Pernes-Fontaines au terrain de motocross. Si vous n'avez pas pu écouter justement cette interview avec Jean-François Cartoux, Alexandre, on peut nous réécouter.
On peut nous
t'as vu un peu la transition,
bien sûr. Effectivement, oh, t'as été très très fort.
Ah, trop
toi, c'est une des meilleures transitions de la saison. Là.
Ouais, bah, il en faut une. Et en plus, c'est la 150e émission. Alors,
ah bah, il le fallait, quoi.
Il fallait que je trouve un moment.
Exactement. Alors, on peut nous réécouter donc, le mercredi matin, de 6h30 à 8h, c'est ça. Eh ouais, toujours, je m'en souviens.
Pourquoi tu demandes une confirmation?
Mais parce que j'ai toujours le doute.
Quand tu passeras le bac, les épreuves, on peut, tu peux pas demander
au bac, c'est l'écrit, donc ça va, tout seul. Donc de 6h30 à 8h le mercredi, et le podcast sera donc le mercredi dans la journée sur le site internet www.rtvfm.net et sur la page Facebook RTVFM.
Bravo.
Merci.
Moi je t'applaudis. Merci. Donc on va parler de handball, mais juste quand même une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on parle des féminines, quand on reçoit Mazan, parce que c'est un club féminin, mais on ne parle pas de l'équipe de foot de Lyon qui gagne la Ligue des Champions pour la troisième fois. Donc je voudrais tirer un chapeau
contre Wolfsburg.
Voilà, tirer mon chapeau aux filles, parce que franchement, elles ont été super fortes.
Bien sûr, et comme ça, ça permet à Lyon de gagner des trophées. Donc félicitations à eux.
Bah voilà, au moins, quand les garçons ne gagnent pas, les filles, elles sont là pour gagner. Et justement, on revient au club de Mazan. C'est un peu un club 100% féminin.
Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que là, effectivement, la filière compétition, elle concerne essentiellement les féminines, mais on a aussi des pratiquants masculins en loisirs, et on a aussi des jeunes garçons jusqu'en moins de 11 ans, voilà, jusqu'à la catégorie des moins de 11 ans. Donc de 4 à 10 ans, les garçons peuvent faire du handball à Mazan, découvrir l'activité à Mazan, et ensuite on leur propose de rejoindre le club de Carpentras avec qui nous avons un partenariat.
Et justement, à l'origine de ce club, tu me diras l'année de création, pourquoi vous êtes orienté vers les féminines ?
Oh ben l'explication historique, elle est simple, je crois. C'est à l'époque, il y avait un club de foot, il n'y avait pas de football féminin, hein, il y avait un club de foot pour les garçons et il n'y avait pas de sport collectif pour les filles. Donc, Monsieur Aimé Navello, maire de Mazan aujourd'hui, directeur de l'école primaire La Condamine à cette époque-là, avait fait en sorte de créer un club de handball pour les filles.
Parce qu'il aimait le handball.
Parce qu'il aimait le handball, oui, parce qu'il venait de Nice et où il était un joueur de hand.
Ah ouais.
Ouais.
Et il était bon.
Ah, je l'ai jamais vu jouer, donc je peux pas te dire.
Non, c'est pas.
Je ne sais pas.
Ah, quand on le verra,
faudra lui demander.
Faudra lui poser la question. Ouais. Et le club, il a été créé en quelle année ?
Il a été créé en 70.
C'est un jeune club.
C'est un jeune club, oui.
Par rapport à des clubs plus anciens.
Oui, non, forcément.
Je dis ça parce qu'on est c'est une palissade, donc si on dit que c'est un vieux club.
Oh, ça fait quand même 48 ans, c'est quand même
c'est
pas
ça,
mal. Hein.
C'est ça.
Pas mal, ouais.
Ouais.
Mais il y a des clubs plus anciens.
Oui, c'est vrai.
Et alors, au niveau de ce club, justement, il y a quand même une particularité que je voudrais souligner. Tu en as parlé il y a quelques instants. C'est ce qu'on appelle des ententes, des conventions que vous passez avec d'autres clubs du département. Mm-hmm. Donc, la plus ancienne, c'est avec Carpentras.
Oui.
Donc, tu vas nous décrire justement le rapport que vous avez entre les deux. Et puis, la toute nouvelle, c'est donc vous terminez Sorgue. Cette première année, justement, c'est Sorgue.
Mm-hmm. Ben, cette convention, ce rapprochement avec ces clubs est dans une logique de mutualisation des forces. À l'heure d'aujourd'hui, la Ligue de Provence-Alpes a fusionné avec la Côte d'Azur. Et nous, on a pensé que si on voulait exister sur le territoire PACA, alors que pour le coup, on est complètement isolé au nord-ouest de cette grande ligue, de cette grande région, eh ben, il fallait absolument regrouper nos forces avec nos clubs, avec les clubs voisins. Et donc, c'est ce qu'on a fait notamment avec Sorgue pour la filière féminine.
C'est-à-dire que, excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que si vous n'aviez pas opter pour cette stratégie, peut-être que vous n'existeriez plus aujourd'hui au niveau compétition ?
Si, on existerait puisque la convention date d'un an, mais notre ambition c'est pas de... La Nationale 2 aujourd'hui c'est pas une fin en soi, c'est une étape pour aller plus haut, du moins c'est ce que l'on espère et en tout cas on met tout en œuvre pour ça. Donc comme la convention avec le club de Carpentras, c'est aussi pour travailler sur le handball féminin sur le territoire. Nous on a des jeunes garçons, mais les jeunes garçons, on veut qu'ils puissent continuer à pratiquer le handball et en l'occurrence qu'ils aillent le pratiquer sur Carpentras, donc puisqu'on est du même bassin, hein, du même territoire. Donc c'est l'objectif, notre objectif commun au club de Carpentras et à nous, c'est de développer le handball masculin et féminin sur le territoire comtadin.
Donc pour rentrer vraiment dans le détail, donc l'entente Mazan Carpentras, ça concerne le loisir, les garçons, les filles, c'est ça?
Ça concerne pas les loisirs, ça concerne garçons et filles en fait, voilà. Puisque on n'est pas deux clubs entre guillemets concurrentiels, on est deux clubs complémentaires dans le sens où Carpentras axe surtout son développement sur la filière masculine et le club de Mazan sur la filière féminine. Donc par contre, on peut fidéliser les jeunes chez nous et les envoyer ensuite sur Carpentras, et Carpentras peut fidéliser les jeunes filles qui viennent de la ville de Carpentras pour leur proposer de poursuivre l'activité sur Mazan ensuite. Voilà, donc c'est un échange de bons procédés qui doit nous permettre d'être plus efficaces, de rayonner davantage encore sur tout le territoire comtadin.
Depuis combien de temps elle existe cette convention?
Ça fait deux années, on va attaquer la troisième année.
Valérie?
Ben, j'allais demander, moi, depuis combien de temps existait l'entente justement entre Carpentras et Mazan?
Alors, officiellement, on a créé une équipe qui joue dans un championnat territorial, donc ce sont des seniors. C'est ce qui a déclenché. Alors, il y avait des filles de Carpentras et de Mazan qui n'étaient pas suffisamment nombreuses de part et d'autre, qui voulaient faire une équipe pour jouer. Donc, c'est parti de là. On a fait une équipe dans le cadre de ce qui est permis par les textes fédéraux, c'est-à-dire une convention, pour évoluer dans ce championnat de territoire. Donc, c'est un championnat départemental en réalité. Mais donc c'est parti de là, et l'idée donc c'est évidemment de travailler sur avant tout sur les jeunes.
Jusqu'à quel âge ?
Eh ben jusqu'au moins de 11 ans. Donc l'idée c'est que Carpentras élargisse son champ d'action sur le secteur féminin jusqu'au moins de 11 ans. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, l'équipe senior c'est une équipe avec des gens qui sont censés peut-être apporter leur pierre à l'édifice en tant que dirigeante ou en tant que cadre d'équipe de jeunes. Donc voilà, la raison de cette équipe, c'est celle-là avant tout. C'est pas les résultats forcément pour des résultats. C'est avant tout d'avoir une pratique féminine sur Carpentras, retrouver une pratique féminine sur Carpentras et avec des gens qui auront envie de s'investir sur les jeunes. Parce que ce qui compte avant tout, c'est les jeunes.
Et l'entente avec Sorgue, donc qui date d'un an maintenant, c'est par rapport au haut niveau.
Oui, tout à fait.
Et le but, c'était quoi? C'était de permettre à des joueurs de Sorgue de venir jouer avec vous, donc d'augmenter le vivier de joueurs.
Alors, en fait, les deux clubs ont gardé leur préformation jusqu'au moins de 15 ans, de manière complètement indépendante. Et à partir des moins de 17 ans, on réunit les joueuses. Et ça nous permet de proposer au moins deux projets à chaque jeune fille. C'est-à-dire qu'une senior fille, actuellement à Sorgue, sans la convention, elle peut jouer en pré-national et ça s'arrête là. Avec la convention, elle peut jouer en National 2 avec Mazan Sorgue ou elle peut jouer en pré-national avec Mazan Sorgue. Ça permet donc aux meilleures joueuses de Sorgue d'évoluer au niveau national. Et de la même manière, une fille qui serait un petit peu trop juste sur Mazan, eh ben, peut jouer avec l'équipe de pré-national.
Voilà. Bien,
donc ça permet d'augmenter le nombre de niveaux de jeu et de finalement d'offrir une palette plus importante à toutes et surtout de réunir les meilleurs pour aller vers le plus haut niveau.
Mais justement, le plus haut niveau, c'est la National 2. On en parle juste après la pause.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey!
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je... prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà donc une petite pause musicale, hein. Vous venez d'écouter Maître Gims et c'était une dédicace pour Bruno parce que Bruno m'a dit au début de l'émission, j'adore cette musique.
C'est totalement faux.
Si, si, tu m'as dit j'adore.
Non, elle est horrible.
La même. Non, c'est pas ça. Mais Bruno, il adore. Depuis qu'il l'a appris aux enfants des écoles. Il me dit, mais alors non, je kiffe.
Je le comprends, cette musique, elle est dure. Hein.
Non.
Merci Alex.
Bon, la prochaine, c'est Flemme avec David Guetta. Et Sia. Mais bon, allez, passons au round. Ouais. Hein, c'est quand même plus intéressant.
Ah, c'est plus intéressant de mettre Gim, ça c'est sûr.
Donc, National 2, Mazan, première année en National 2. Le bilan alors, Pascal. Tu t'attendais à ça?
Ah, je m'attendais à ce que ce soit compliqué, oui. Oui, évidemment. Alors après, on va terminer a priori, donc à la, enfin c'est sûr même, à la 10e place. Il y a deux équipes derrière nous qui ne peuvent pas nous rejoindre. Il y en a une devant qu'on ne peut pas rattraper. Donc voilà, on terminera à la 10e place. Effectivement, le classement n'est pas terrible. On aurait pu espérer un peu mieux. Par contre, effectivement, on s'attendait à une saison compliquée, puisque entre National 3 et National 2, il y a vraiment une marche importante. Alors, sur la dynamique de la saison dernière, les filles ont réussi de beaux résultats en tout début de saison. Et puis, dès lors qu'on a commencé à enregistrer une, deux, trois défaites, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a fallu digérer le fait de ne pas gagner tous les week-ends comme ça se passait l'année précédente. Et ben, vous savez tous que pour un groupe, ça peut être parfois compliqué à vivre, ça. Hein. Donc, malgré tout, les filles ont su réagir. Tout le monde a réagi de manière positive, je trouve. Alors, avec pas forcément avec des résultats exceptionnels, mais avec des prestations en partie très abouti. Je m'explique, le match par exemple contre Frontignan en est l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'une première mi-temps vraiment de toute beauté, et puis avec beaucoup de rigueur, d'engagement, etc. Et puis bon, la deuxième a été nettement moins bonne. Mais donc ça veut dire que l'équipe est capable de hausser son niveau de jeu au niveau de la Nationale 2. Maintenant, il va falloir évidemment se servir de cette première année d'expérience pour être capable de maintenir le niveau de jeu qu'on est capable de produire sur une durée plus importante et sur des matchs entiers, quoi.
Surtout que, comme tu le disais, Bah oui, c'est un peu le reflet de l'année. J'ai regardé un petit peu le bilan de tous les matchs. Et souvent, Mazan commence super bien son match. Et après, il y a une baisse de régime. Un peu comme le Carpentras 13, le rugby. C'est un peu pareil.
Oui, c'est vrai.
Et il y a une baisse. On va dire, si les matchs duraient moins longtemps, il y aurait plus de victoires.
Oui, peut-être, oui. Il faudrait qu'il dure que 30 minutes. Alors dans ce cas-là,
non, mais
il y a une explication simple. Alors c'est pas.
Mais elles sont quand même au niveau.
Oui, c'est pas lié à l'aspect physique. C'est en partie lié à ça parce que l'effectif aussi n'était pas très très large. Il n'y a pas un banc de touche très fourni en nombre, je parle. Et du coup, le rythme étant ce qu'il est en National 2, que quand des filles jouent pendant 30 minutes sans la moindre interruption, parfois en deuxième mi-temps c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça c'est vrai que sur le plan athlétique ça a été parfois un peu difficile de ce point de vue. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Par rapport au fait justement que commençaient bien leur match et qu'elles avaient du mal.
Oui, alors
à
c'est l'adaptation. Oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est l'adaptation par rapport.
Vu,
merci.
Je suis parce que
tu suis.
Je suis relevé.
En fait, à ce niveau, les gens sont capables de s'adapter à l'adversaire et donc les équipes qu'on a rencontrées très souvent ont su déceler très vite les points forts de notre équipe et ont su s'adapter, ont posé des problèmes et là justement dans un second temps, il faut être capable à son tour de s'adapter aux problèmes posés par l'adversaire. Et c'est peut-être là où, justement, à certains moments, ça a pêché. Et du coup, ça explique que l'effet de surprise étant là en première mi-temps, ça, tout marche bien. À partir du moment qu'en face, on a compris comment ça se passait, on pose d'autres problèmes. Et là, il faut être capable de changer les choses, de se réadapter. Et c'est ce qui a été parfois plus compliqué. Donc, manque d'expérience, manque de vécu. Mais ça, c'est des choses qui cette année ont justement ont été apportées par ce championnat là tout au long de la saison, parce que je pense qu'elles l'ont bien mis à profit, elles en ont bien profité, se sont imprégnées de ce niveau là pour pouvoir hausser leur niveau de jeu et j'espère faire une bonne saison l'année prochaine.
Et puis parce que on va dire en milieu de saison, elles étaient pas dans les dernières, elles étaient dans le milieu du tableau à peu près. Et ouais. Puis ensuite, ça continue un petit peu à baisser. 10e sur 12, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux équipes derrière. Mm-hmm. Donc, on voit qu'elles sont quand même au niveau. Les équipes qui sont derrière viennent de National 3 également ou elles étaient en National 2 ?
Elles étaient en National 2. Le Teil était en National 2. Ouais.
Donc, ça veut dire qu'elles ont largement le niveau.
Oui. Bon, le Teil était un petit peu décroché, hein, mais après, toutes les équipes se valent. Et il n'y a pas beaucoup d'écart. Frontignan, qui va accéder, est un peu supérieur, mais on a fait match nul quand même chez elle. On perd de 5 buts seulement à la maison. Mais bon, voilà, deuxième mi-temps un petit peu juste. Mais ça ne fait pas un gros écart finalement sur les deux matchs. Et cette équipe-là va terminer à la 3e ou 4e place et accède à la Nationale 1 l'an prochain. Donc, Il n'y a pas à rougir.
Donc l'année prochaine, il faut finir parmi les 4 premiers pour aller en National 1. Ça marchera toujours comme ça ou pas ?
Alors, non, pas du tout. C'est cette année seulement. Les 4 premiers de la poule accèdent à la National 1 parce qu'il y a une refonte des championnats pour la saison prochaine. Donc on passera de 3 à 4 poules en National 1. On passera de 4 à 8 poules en National 2. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de montées de National 3 en National 2 et il y a beaucoup de montées de National 2 en National 1. Il y en a 4. Donc en fait ça risque de provoquer une petite baisse de niveau puisque la refonte des poules va faire que
si beaucoup de National 3 montent
voilà. Après on n'a pas encore la composition des poules, on l'aura évidemment qu'après la dernière journée.
Et tu parlais aussi que ce qui posait un petit peu problème, c'est au niveau géographique parce que vous êtes, comme tu disais, au nord, donc c'est vrai que des fois les déplacements étaient assez longs. Le fait de cette réorganisation permettra pas justement de recentrer un petit peu tout ça, de réduire le territoire ?
J'espère qu'on aura des déplacements un petit peu moins lointains, parce que des déplacements comme Clermont-Ferrand, Saint-Chamond dans la Loire ou Narbonne, c'est pas à côté quoi. Hein.
Et justement, donc, le fait de doubler le nombre de on va dire de poules.
Ça a été fait dans ce but-là. La fédération a voulu restructurer les championnats pour justement diminuer le nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des équipes. Donc il y a un calcul qui a été fait et qui fait que ben, on se déplacera moins, mais normalement tous les clubs français se déplaceront moins.
Oui, mais peut-être aussi moins de fatigue et puis...
Et ça a un coût, hein.
Et bien voilà. Sûr,
pour le club,
sûr,
ça a un coût énorme.
Pour la forme physique des joueurs, oui. Plus le déplacement est long, plus c'est dangereux.
Surtout que dernièrement, vous avez eu un incident, j'ai vu ça.
Oui, alors ça, c'est ça fait partie des choses qui arrivent parfois, mais c'est tellement exceptionnel que oui, on a eu une panne, effectivement, avec notre minibus en rentrant sur l'autoroute, ouais. Ah ouais. À Orange. Ouais.
Ah, c'est ballot, ça.
Ah oui, c'est ballot, ouais.
Donc, tout le monde a poussé.
Tout le monde a poussé dans le minibus et resté sur place. Et heureusement, il y avait quelques voitures sur le parking de l'autoroute à Orange pour emmener les joueuses. Mais qui ne sont pas toutes arrivées, puisque ce jour-là, c'était un jour de grand week-end. Ah, oui. Et bouchons sur l'autoroute. Et donc, voilà, arrivées à bourg de péage pour certaines à l'heure du match et pour d'autres à la fin du match.
Donc compliqué.
D'où le score fleuve à bourg de péage, puisque on a perdu 45 à 27, je crois. Et malgré tout, les 7 joueuses présentes, parce qu'elles étaient finalement que 7, ont réussi
à
limiter les dégâts de manière incroyable, parce qu'elles auraient dû plonger davantage encore, quoi.
Bon, chapeau. Alors, on fait une petite pause, parce que bah, pour l'an prochain, il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements. Hein.
Oui, hein? Il y en a quelques-uns.
Bah oui, la capitaine, l'entraîneur, allez, on fait la pause.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc il y a quelques instants, nous parlions de la Nationale 2, le bilan, hein, donc un bilan relativement positif. L'équipe ne descend pas dans la mesure où il y a cette refonte. S'il n'y avait pas eu la refonte, c'est les...
Alors, je suis sûr que les deux derniers descendaient. Le troisième, j'ai l'antépénultième, donc j'ai un petit doute.
Il n'y a pas une histoire de barrage.
Mais en fait, on ne s'est pas posé.
Non, ça n'existe pas.
Alors, où il y avait un match de barrage où le troisième, enfin l'antépénultième descendait, très honnêtement, je ne sais pas.
On a mais en pas... tout cas, la descente n'était pas automatique.
Pas forcément.
Donc, c'est pas mal. Je reviens justement à la prochaine saison. Donc, je l'annonçais juste avant la pause musicale. Deux départs, et non pas des moindres. La capitaine, hein, donc Julie Ricard. Ça fait combien de temps qu'elle était au club ?
Oh, une vingtaine d'années. Elle a connu que le club de Mazan et elle a commencé le handball au club de Mazan à l'âge de 5-6 ans, je crois. Donc, voilà. Elle a aujourd'hui 26 ans. Donc, c'est ça. Une vingtaine d'années où elle a fait une vingtaine de saisons. Bon, c'est pas mal.
Départ pour retraite ou changement de club ?
Non, pas changement de club. Elle a souhaité faire un break, s'arrêter. Enfin, pour elle, c'est même plus qu'un break. Elle s'arrête. Bon, moi, je suis pas sûr que ce soit pas un break. C'est l'avenir qui le dira.
Ouais.
C'est dommage à 26 ans de s'arrêter, surtout qu'elle a pas de problème physique ni rien. Donc, et puis je pense que c'est une bonne chose. Hein. Maintenant, elle a quand même une expérience. Elle a de l'expérience. Son poste de pivot, c'est vraiment quelqu'un qui aurait pu encore apporter beaucoup à son équipe.
Oui, elle a un sacré bras.
Oui, puis le sens du placement, oui. C'est surtout ça, des démarquages. Non, elle fait vraiment des choses très très intéressantes.
Et elle est capitaine.
Et elle était capitaine jusqu'à il y a quelque temps, quand elle a annoncé qu'elle souhaitait prendre un petit peu de recul. Donc elle a ralenti les entraînements, donc de fait, a laissé son brassard de capitaine.
Donc qui est capitaine maintenant ?
C'est Cynthia Foureau qui a terminé la saison, enfin qui termine la saison puisqu'elle est encore pas terminée, il reste un match.
Et donc Julie termine. La relève y est derrière ?
Et la relève y est, oui. Il y a des jeunes joueuses qui ont participé au championnat cette saison et surtout en fin de saison. Là. Et donc, on y travaille. Enfin, Vincent, le gars qui va reprendre l'équipe. Alors, le gars, c'est son nom. Hein, c'est pas le garçon. C'est bien le gars. Vincent, le gars, va reprendre la direction de l'équipe après la dernière journée de championnat. Et donc, ils travaillent sur le groupe de l'année prochaine. Donc, il y a effectivement des jeunes joueuses prometteuses qui ont déjà goûté à la Nationale 2 et qu'il saura, je pense, impliquer et faire progresser.
Et puis, un autre départ également important, Karl Vincenot.
Oui, Karl a effectivement effectué 6 ans avec nous.
Il a toujours été entraîneur de la première ?
Oui, il a été uniquement entraîneur de la première au club. Ouais. Il a pris l'équipe après moi, il y a 6 ans. Donc on redescendait de pré-national, on redescendait de National 3 en pré-national. Et donc il a dû faire, je crois, la première année, il n'y a pas eu l'accession, mais ensuite accession en National 3, redescente, remontée en National 3 et puis montée en National 2. Donc un joli parcours et une vraie belle progression de l'équipe. Ouais, donc du niveau de jeu du groupe d'une manière générale, les matchs qu'on peut voir au COSEC aujourd'hui, le niveau de jeu n'est plus le même que celui d'il y a 6 ans, quoi. C'est clair.
Et même question pour Julie, retraite ou changement de club ?
Non, je... Karl...
Oui, je parle de Karl.
Oui, Karl devait s'arrêter complètement et puis va rebondir à Avignon avec la Nationale 3 garçons d'Avignon.
Ah, il change...
Oui.
Il va chez les garçons.
Il part sur les garçons.
Ah, il va être déçu.
Ouais, c'est peut-être, je ne sais pas.
Bon, ça sera surprise.
Bon vent à lui. Donc, je lui souhaite de réussir.
Bah, nous, c'est pareil, hein, en tout cas.
Oui, normal.
Bon, par contre, le successeur n'est pas connu.
Si, c'est Vincent Legat.
Ah, c'est Vincent Legat.
Voilà, oui, c'est... Je crois que tu ne suis pas là.
Voilà.
Ouais, bah, de suite.
T'as du mal, Lionel.
Excuse-moi, Lionel. Oui, donc non, c'est Vincent Lega qui va reprendre l'équipe. Donc, c'est quelque chose qui est entériné depuis déjà quelques semaines. Et donc, il nous a semblé que c'était le plus à même de reprendre en main le groupe qu'il connaît déjà en grande partie, puisqu'il a parfois accompagné Karl. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'investit à 200%, qui est expert fédéral, donc qui a une maîtrise technique vraiment, vraiment pointue. Et donc, je pense qu'il va faire progresser cette équipe, il va donner sa chance aux jeunes et il va savoir les faire avancer tout ensemble.
Ouais, donc, comme Karl s'en va, le nouvel entraîneur, il est connu ? Ouais, t'es facile celle-là.
Ouais.
J'essaie de me rattraper un petit peu. Donc, pas mal de changements. Est-ce qu'il y a des recrutements en termes de joueurs, de joueuses extérieures, ou est-ce que vous avez des joueurs en vue ?
Alors, non, le recrutement, il est avant tout interne. Enfin, il y a une jeune joueuse, une jeune gauchère d'Orange qui va rejoindre le groupe. Voilà, c'est pour l'heure la seule recrue. Les autres recrues étant des joueuses, jeunes joueuses issues de la formation au club.
Est-ce qu'il existe un site qui permet aux joueurs ou aux joueuses de se faire connaître d'un club pour accéder, par exemple, vous recherchez des gauchères, vous recherchez des
ailières. Oui, ça existe, oui. Mais c'est quelque chose qu'on utilise. C'est le bon coin, oui. C'est quelque chose qu'on utilise très très peu. Parce que ben, qui dit Internet dit rayonnement mondial. Et donc, si on s'installe sur ce genre de site, Handball Transfer, pour ne pas le nommer, eh bien, on a des demandes qui viennent des quatre coins de la planète, quoi. Et donc, c'est pas forcément réalisable.
Et ça devient compliqué.
Et puis nous, on est avant tout axé sur la formation. Donc, faire venir une joueuse, oui, on aimerait. On a créé une cellule emploi, d'ailleurs, pour les joueuses du club, par le réseau d'entreprises que l'on a. Mais aussi, éventuellement, pourquoi pas, pour faire venir une ou deux joueuses qui apporteraient un plus venant de l'extérieur, qui serait plus expérimentées. Mais c'est aussi, nous, notre objectif, c'est aussi de former des jeunes et pour avoir une vraie identité du territoire, quoi, une vraie identité vauclusienne. Donc ça, c'est fondamental.
Prochaine saison, objectif.
Objectif top 5, je reprends les termes de Vincent, top 5 National 2.
Ah, vous allez haut.
Oui, mais comme j'ai expliqué, il y a une refonte des championnats qui fait que ce sera... On aura quand même quelques équipes dans notre poule qui viendront de la National 3. Donc, avec le vécu de cette année, on doit être capable de jouer dans la première moitié de championnat. Et Vincent se fixe un objectif élevé, top 5.
Donc, si j'ai bien compris, il n'y aurait pas eu la réforme, cet objectif aurait pu être utopique. Oui. Mais avec la réforme, c'est réalisable.
C'est réalisable, tout à fait.
Ben en tout cas, c'est le pire qu'on vous souhaite, en tout cas,
ouais.
Parce que ça serait une bonne chose. Au niveau de la montée en National 1, à partir de l'an prochain, c'est les trois premiers ?
Ah non, ce sera
le premier
de chacune des huit poules de National 2 qui montera. Et les deuxièmes se rencontreront en match de barrage. Et donc une équipe sur deux montera en National 1. Donc il faut être premier ou deuxième pour avoir le droit de disputer un match de barrage. Non mais c'est pas l'ordre du jour encore, hein. La National 1 c'est quand même un autre monde. Et donc pour nous, il y a rien de pire de devoir gérer une relégation. Donc le jour où on accède, eh ben il faut être prêt pour pouvoir se maintenir. On a eu à gérer des relégations de National 3 en régional. C'est pas évident quand même. Heureusement qu'on a pu s'appuyer sur un réservoir de jeunes issus de la formation à chaque fois. Mais quand même, si on peut l'éviter, c'est mieux. Donc, objectif, on monte progressivement, on travaille. Et quand on est prêt, naturellement, la montée, si elle doit se faire, elle se fait, quoi.
National 1, ça n'a pas du tout le même niveau. Les filles, c'est pas le même engagement.
Oui.
Elles doivent être encore plus disponibles, encore plus d'entraînement.
Il faut plus de moyens, voilà, plus de budget.
Plus de moyens, voilà, au niveau du club.
C'est ça.
Plus,
hein. Et là, on est, et après, on arrive à la frontière entre le monde amateur et le monde professionnel. Hein, puisqu'on a en France, sur l'élite féminine, on a D1, D2, enfin, LFH, Ligue féminine de handball et la deuxième division. Ça, c'est la partie pro. Et en dessous, National 1, National 2. Donc, National 1, on est. D'ailleurs, pour espérer d'un National 1 monter en D2, il faut avoir une
comptabilité déjà au CEL, il faut avoir un
budget minimum, voilà, qui est de, je crois, 450 000 euros. Voilà. Donc,
oui, parce que c'est l'antichambre
du monde professionnel. Donc, quand on accède à la National 1, il faut bien se dire qu'on va jouer contre des équipes qui sont dans l'antichambre du monde professionnel. Donc, voilà. Et si on veut rivaliser, il faut être costaud, quoi. Il faut être armé.
Bon.
Donc voilà, on va s'y préparer tranquillement, puisque c'est quand même notre objectif d'aller vers la National 1. Hein, mais il faut construire étape par étape, et c'est ce qu'on essaie de faire à la fois en termes de structuration de club et avec le développement des ressources financières, des actions susceptibles de développer nos ressources financières, et d'autre part, sportivement, former toujours de plus en plus de jeunes.
Et justement, c'est une bonne transition, parce que pour pouvoir former des jeunes, il faut démocratiser le handball. Et pour démocratiser, vous avez créé un poste d'agent de développement.
Oui.
Il est créé, ça y est ?
Alors, il est officiellement créé, mais pour l'instant, il n'est pas pourvu. Non, on est en phase de recrutement, donc j'espère que c'est imminent. Voilà. Donc
pour pouvoir présenter au poste, c'est toujours possible. Et quelles qualifications vous recherchez ?
Alors, on cherche.
On fait Pôle emploi. Vas-y.
Voilà.
On fait Pôle emploi, oui. Ah, ça va être peut-être un petit peu compliqué de trouver ici. On cherche quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience, qui a au minimum un BPJEPS ou un diplôme d'État, et puis qui a un vécu dans le comme agent de développement déjà quelque part, quoi. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'envisager le développement d'une manière globale, mais qui soit aussi capable d'intervenir sur le terrain, de mener des actions qui vont inciter les jeunes filles à venir faire du handball.
Alors justement, de quelle manière il va s'y prendre ? Parce qu'effectivement, développer le handball, mais auprès de qui par exemple ?
Auprès des jeunes dans les écoles primaires, les collèges, les centres sociaux, et puis sur tout le territoire du Comtadin, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que moi je suis directeur d'un centre de loisirs, je peux prendre contact avec vous pour que cet agent justement vienne faire jouer,
viennent proposer l'activité handball de manière à susciter des vocations et de l'engouement, de faire en sorte que des jeunes filles aient envie de rejoindre le club.
Et ça sera sous forme donc pratique, je suppose, et de cycle.
Oui, sous forme de cycle. Après, ça peut être des interventions ponctuelles, mais en fonction des disponibilités en termes d'installation. Donc tout est possible. Et l'objectif, c'est de venir sur place, proposer l'activité, que ce soit dans les zones, dans les communes en zone de revitalisation rurale, hein, les petites communes, mais que ce soit dans le cadre de la politique de la ville, sur Carpentras par exemple. Donc voilà, de venir proposer sur place, et puis après de proposer à ces jeunes de venir sur Mazan, soit pour des essais, soit pour des stages. On fait des stages pendant les vacances, et on accueillera ces jeunes filles sur des stages pour leur faire découvrir un petit peu plus encore l'activité.
Que jeunes filles, pas garçons ? Parce que comme vous prenez jusqu'à 11 ans, si vous faites les écoles primaires...
Jusqu'à 11 ans, on prend aussi les garçons, bien entendu, oui. Mm. Oui.
Et puis, il y a un autre axe que cet agent va devoir développer, c'est le hand-fauteuil, parce que le hand-fauteuil prend de plus en plus de place au sein du club, et une place non négligeable, et c'est vraiment une excellente chose. Il participe maintenant à un championnat de France dédié au hand-fauteuil. Toujours aussi auprès des jeunes ?
Également, oui. le groupe on fait des interventions dans les écoles de Mazan, mais aussi d'ailleurs dans des collèges à Rosio, à Orange, à Vaison-la-Romaine, mais aussi il y a des communes qui nous demandent, comme Bedouin. Il y aura une action de promotion qui sera organisée lors de la journée du sport. Enfin voilà, donc toutes les occasions, toutes les sollicitations sont bonnes, et en tout cas on a envie de pouvoir y répondre.
Donc tous les institutionnels, excuse-moi, qui nous écoutent, s'ils souhaitent faire appel à cet agent de développement,
oui.
Commencera quand ?
Début septembre.
Début septembre. Comment ils font ? Ils prennent contact avec le club directement ?
Oui, bien sûr, avec le club, oui, tout à fait, oui.
Et après, vous passez une convention ?
Voilà, après, c'est par système de convention. On met une convention en place et voilà, on organise les interventions, enfin l'action, quoi.
Valérie ?
Je voulais simplement rebondir en disant, Mazan, en fait, quand le club de Mazan, je veux dire, tu essayes de le mettre à disposition de tout le monde pour en faire un club phare, on va dire, de...
Oui, puis on rayonne déjà sur le territoire, mais on a encore envie de rayonner davantage. C'est important pour l'avenir. Il faut le vivier de jeunes rien que sur Mazan est quand même relativement limité. Donc nous on veut se développer à l'échelle du territoire et porter haut les couleurs de notre territoire.
En tout cas, c'est bien fait. L'émission se termine. Merci Pascal Vassé, vice-président du club. Merci Alexandre. Merci Valérie.
Merci à toi.
Merci Bruno. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Bonsoir.
L'histoire à sauver, sans plus chercher à t'excuser.